Bonsoir à tous. C'est très bien de vous voir. Je sais que certains d'entre vous ont déjà eu des longues journées, donc c'est bien de vous voir. Donc ce soir, on va parler de la sérénité dans un monde mort. Donc qu'est-ce qui donne à une personne la sérénité dans un monde mort? L'année dernière, à peu près à la même période, on a organisé un événement intitulé « Comment pourrais-je vivre à jamais ?» Et c'était un message sur la mort. Et la plupart de ceux qui étaient présents avait moins de 30 ans et curieusement ça n'a pas suscité beaucoup de réactions parmi les gens qui étaient là. Il semblait que la mort ne soit pas le thème le plus captivant pour un samedi soir. Et je dois avouer que je me sentais un peu détaché en le préparant aussi. En général, les jeunes comme moi, comme nous, pensent rarement de la mort, n'est-ce pas? Mais en revanche, écrire ce message-ci a été une expérience plus personnelle pour moi. Il y a 2 semaines, ma grand-mère est morte d'une défaillance cardiaque. La voilà. Elle avait 88 ans. Et sans parler du fait que j'ai une introduction dans mon message, maintenant, ça a été une des semaines assez tristes pour nous, pour notre famille. Une dame que nous avons beaucoup aimée, une dame qui a rempli notre vie de joie et de bonheur, elle est maintenant partie. Et dans des circonstances difficiles, les mots peuvent sembler parfois inappropriés. Tout ce qu'on peut faire, c'est de pleurer. Mais ça m'a fait réfléchir à la mort et aux personnes âgées. Notre culture a tendance à promouvoir l'idée que vivre, c'est rester jeune. Les entreprises dépensent des millions d'euros pour nous convaincre qu'on peut rester toujours jeune. Et c'est une idée glorieuse, n'est-ce pas? Sauf que c'est un mensonge. C'est pas vrai. Et je parie que c'est un mensonge auquel nous croyons tous. Croyez-le ou non, ma grand-mère était une athlète. Elle participait souvent à des compétitions nationales. Et ensuite, elle a passé la majorité de sa carrière à enseigner le sport. Pas mal pour une grand-mère. Mais pendant les derniers jours de sa vie, elle était à peine capable de respirer. Ses organes ont lâché. Sa vie suspendue à un fil. Et jamais auparavant, les promesses de notre société en semblaient si dérisoires. La mort est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Je ne pouvais pas voir ma grand-mère dans les derniers jours de sa vie. Cependant, ça m'a fait réfléchir. Qu'est-ce qu'elle voudrait dire à la jeune génération comme nous? Que dirait quelqu'un qui a vécu sa vie pleinement à quelqu'un qui vient de commencer? Quel conseil aurait cette personne qui ne peut pas échapper à son lit d'hôpital, à quelqu'un qui pense que le monde leur appartient? Et donc, je crois que les personnes âgées peuvent nous enseigner beaucoup. Nous pouvons facilement tomber dans le piège de penser que la vieillesse empêche quelqu'un de nous instruire. Mais je pense que c'est ironique que ceux qui connaissent la vie le mieux sont ceux qui sont en train de mourir. Après tout, vous savez seulement à quel point la vie est bonne quand on vous l'enlève, n'est-ce pas? Et c'est parce que cette vie se déroule dans un monde mort. Cette vie se déroule dans un monde mort. Et ce soir, nous allons aborder les thèmes de la vie et de la mort. Et nous allons entendre ce que Dieu a à dire sur la vie et sur la mort dans la Bible. Bien entendu, nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions qui nous troublent, mais quelques-uns d'entre vous ont déjà peut-être connu la tristesse après la mort de quelqu'un. Mais je voudrais que l'on soit convaincu que la sérénité dans un monde mort n'est pas seulement souhaitable, mais elle est aussi possible. Et nous allons voir que la sérénité dans un monde mort est possible en écoutant les conversations de 2 personnes âgées. Et si vous êtes un sceptique, peut-être cette approche vous semble un peu convaincante. Mais même si vous pensez que ce n'est pas très pertinent aujourd'hui, je vous invite à garder en tête ce que je vais vous dire pour référence ultérieure. Évidemment, nous n'écoutons pas les personnes âgées juste parce qu'elles sont vieilles. Mais dans le passage qu'on va voir dans quelques instants, il s'agit des personnes qui ont compris la réalité de ce monde, la réalité de la mort, et qui ont aussi réalisé qu'elle ne doit pas avoir le dernier mot. Et nous ferions bien de les écouter. Mais avant de voir ces deux individus, je voudrais vous demander comment les personnes âgées, les générations plus âgées, vous ont influencé dans votre vie. Comment vous ont-elles aidé à comprendre le monde dans lequel vous vivez comment est-ce qu'ils vous ont aidé de vivre votre vie. Donc, on va passer quelques minutes à discuter des questions qui vont apparaître à l'écran. Donc, je vous laisse 5-10 minutes pour discuter maintenant. Merci, Jonathan. Alors, quelqu'un m'a dit qu'on ne peut pas apprendre à vivre en lisant un manuel. Il faut se salir les mains un peu. Donc, je pense que c'est vrai, n'est-ce pas? On apprend la vie, apprend à vivre la vie en la vivant. Et voici pourquoi les générations plus âgées sont utiles pour nous. Et je vais vous présenter Siméon et Anne, deux personnes âgées, deux personnes qui connaissent bien la vie. Ils ne nous donnent pas des réponses banales en retouchant les choses difficiles. Ils savent ce que ça fait de vivre et ils ne veulent pas nous cacher la réalité. Et de plus, ces deux personnes ont tous de la sérénité dans un monde mort. La question pour nous ce soir, c'est comment et pourquoi. Et donc, je voudrais nous montrer dans les prochaines 15 minutes comment Siméon et Anne nous apprennent à vivre. Quels conseils ont-ils pour nous? Comment peuvent-ils nous aider à avoir la sérénité dans un monde de mort? Et j'ai trois choses qu'ils pensent que vous devriez savoir sur la sérénité dans un monde de mort. Et la première chose, c'est la vie, c'est la mort. Quand j'étais petit, j'aimais construire des châteaux de sable. Et je passais des heures et des heures avec ma petite sœur à la plage. On a construit des tours élégantes, entourées par les longues tranchées. Et le soleil brillait. Rien ne pouvait voler ma joie. C'était super. Jusqu'au moment où le chien qui courait le long de la plage a chargé dans mon chef-d'œuvre et c'était la destruction totale. Et je recommençais le processus à nouveau, mais une demi-heure plus tard, la mer est arrivée et l'a emportée en un instant. Et est-ce que vous avez connu cela dans votre vie? Je ne parle pas des châteaux de sable, mais je parle de la vie. Vous pensez que vous avez pris la vie à bras-le-corps, mais tout d'un coup, ça s'effondre. Nous avons des rêves brisés, peut-être une relation qui n'a pas marché ou un travail perdu à cause de la mauvaise santé. Nous avons des espoirs insatisfaits, le désir de se marier, le désir d'avoir des enfants. Nous regardons les reportages sur les conflits internationaux à la télé. Nous nous endettons, nous voyons la désintégration de la famille, nous perdons un être aimé. Et tout cela sans parler du fait qu'une personne sur une meurt. Et donc si vous attendez assez longtemps, vous allez voir la mort dans cette vie. Nos vies ressemblent à des châteaux de sable. Si on attend assez longtemps, une vague arrivera et nous renversera. La vie, c'est la mort. Et Siméon et Anne savaient bien que la vie, c'est la mort. Et ils ont des rides pour le prouver. Voici Siméon. Il habite à Jérusalem, le verset 25. Et il se fait vieux, même si Dieu lui a dit qu'il ne mourra pas tout de suite, il se fait vieux. Siméon était juif, ce qui voulait dire que sa famille a connu la peur, l'oppression et la captivité. Il y a quelques générations, toute la nation d'Israël a été déportée à Babylone, prisonnier de guerre sous un régime brutal. Mais à son époque, beaucoup étaient déjà retournés à Jérusalem. Mais ils n'ont jamais oublié leur histoire en tant que réfugiés. De plus, au temps de Siméon, les Romains patrouillent dans les villes de Jérusalem. Siméon est un otage dans son propre pays, sous l'occupation romaine. Il sait que la vie, c'est la mort. Et voici Anne. Tout comme Siméon, elle descend d'une famille opprimée par la guerre. Elle vient de la tribu d'Azer, une région d'Israël dont s'était emparée l'armée assyrienne en 722. Et sa tribu s'est mariée avec les Assyriens, ce qui a presque anéanti son patrimoine. Et elle jeûne aussi, vous avez vu ça dans le passage, signe de sa prise de conscience de son péché personnel et national qui a amené tous ces événements. Et de plus, elle est veuve. Verset 36. Elle avait goûté aux joies du mariage avec son mari pendant 7 ans, et puis il est mort. Elle a passé la plupart de sa vie seule, dépossédée de l'homme qu'elle aimait. Anne savait bien que la vie, c'est la mort, là-dehors et là-dedans. Elle le vivait chaque jour de sa vie. Et donc, j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre que la vie, c'est la mort. Vous savez exactement ce dont je parle. Et voilà ce que Siméon et Anne ont vécu, et pour plus longtemps que nous. Ils veulent nous rassurer donc que cette vie est une vie de mort, et ça c'est normal, c'est juste comme ça. Et la question donc qui s'ensuit, c'est si la vie c'est la mort, alors comment la vivre? Comment la vivre? Qu'est-ce qui nous empêche de déprimer et de jeter l'éponge? Et ça c'est la deuxième chose que Siméon et Anne nous enseignent. La vie c'est attendre. La vie c'est attendre. Lorsque vous êtes confronté à une vie de mort, je crois que vous avez 3 options. La première, c'est de faire semblant que la vie, ce n'est pas la mort, et vous en profiter au maximum, sans regarder toutes les épreuves qui vous entourent. La deuxième option, c'est que vous rendez compte que la vie, c'est la mort, mais on se laisse écraser complètement jusqu'à être paralysé par nos circonstances. Ben, Siméon et Anne nous donnent une 3e option, attendre. Mais attendre quoi? Voyez le verset 25. Le verset 25. « Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était sur lui. » Et le verset 38 aussi. Arrivée elle aussi à la même heure, Anne disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, Siméon et Anne et leurs amis sont en train d'attendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, attendre? À l'époque où les familles de Siméon et d'Anne, elles étaient en captivité, dans des pays étrangers, Dieu avait promis de restaurer tout ce qu'ils avaient perdu. La peur, l'oppression, la mort n'auraient pas le dernier mot. Et c'était à cause de leur péché que Dieu a puni la nation d'Israël. Israël était sous la condamnation de Dieu. Et donc si la situation allait améliorer, ce serait à Dieu de le faire. Et il a fait. Donc, Dieu a promis qu'un jour, son peuple reviendrait dans leur patrie et qu'il reconstruirait leur ville. Il a promis un jour où il transformerait leur deuil en joie. Il changerait les paysages désertiques en vallées fleurissantes. Il leur donnerait la paix. Et Dieu a même promis un jour où la mort n'existerait plus. Et en fait, ce que Dieu a promis à ce petit pays au Proche-Orient il y a 2500 ans marquerait le début du renouvellement de toute la terre, un magnifique nouvel ordre mondial, le paradis sur terre. Et ça s'est passé, plus ou moins. Siméon, il est à Jérusalem, donc le peuple est déjà retourné. Ils ont reconstruit la ville. Mais qu'en est-il des chansons, de la joie, de l'extinction de la mort? Il semble que Dieu ait oublié tout ça. Mais c'est la raison pour laquelle Siméon et Anne attendent la consolation d'Israël, la délivrance à Jérusalem. La consolation, ça veut dire réconfort. Et délivrance, ça veut dire être racheté de l'esclavage. Donc Siméon et Anne attendent le moment où Dieu va restaurer la vie à ce qu'elle devait être. Et donc lorsqu'il s'agit d'attendre, Siméon et Anne n'éprouvent aucun ressentiment. En fait, le fait qu'ils attendent, c'est une preuve de leur confiance, n'est-ce pas? Parce qu'ils croient aux promesses de Dieu, ils peuvent attendre. Ils ne font pas l'autruche en essayant d'établir le paradis sur terre, en gagnant beaucoup d'argent, en vivant la vie de luxe. Non. Et ils ne se mettent pas à déprimer non plus, en se disant que Dieu n'existe pas parce qu'il n'a pas réglé tous les problèmes dans le monde, ou que Dieu est distant parce qu'il y a tant de souffrances dans le monde. Non, ils font confiance en Dieu pour accomplir ce qu'il a promis, et selon son agenda. Siméon et Anne savent que la vie, c'est la mort, et c'est ça ce qu'ils méritent. Et donc, ils attendent. Ils attendent. Ils croient à la Bible quand elle dit « L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. » Mais il y a une troisième chose que Siméon et Anne nous enseignent si on veut avoir la sérénité dans un monde mort. C'est en Jésus, l'attente est terminée. Au fil des siècles, les gens ont toujours aimé les super-héros. Donc les Grecs avaient Hercule, les gens au Moyen-Âge avaient Jeanne d'Arc et les chevaliers. Et nous, nous sommes obsédés par Tony Stark, Black Panther, le Hulk. Mais Siméon, il est dans son temple, dans le temple, mais il n'attend pas l'arrivée d'un super-héros. Il s'attend à voir un sauveur. En fait, Dieu avait promis que toutes ses promesses se réaliseraient grâce à un roi. C'est ça le sens du verset 26. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Donc, Dieu avait dit à Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, c'est-à-dire le roi promis de Dieu, qui vaincrait les Romains, qui réglerait tous les problèmes et qui apporterait la paix. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais voici le choc. Ce que Siméon voit, ce n'est ni un super-héros, ni un guerrier puissant. C'est un petit bébé. Voyez les versets 27 à 32. Il vint au temple, poussé par l'esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Vous avez compris ce que Siméon a dit ? La naissance de Jésus-Christ signifie que l'attente est terminée. Siméon peut avoir la sérénité dans un monde mort. Il peut pousser un soupir de soulagement. Le sauveur du monde est arrivé. Il peut arrêter d'attendre. Mais attendez une minute, c'est de la folie, n'est-ce pas ? Vous pensez sûrement. Comment un bébé juif peut-il sauver le monde ? C'est pas possible. Même s'il devenait un super soldat, que pourrait-il faire pour éliminer la mort ? C'est pas possible. Mais ça, c'est la surprise principale de ce passage. Je pense que c'est comme si vous disiez à la maman d'Emmanuel Macron, il y a 40 ans, « Ce bébé est le président de la France et il va mettre en œuvre des réformes sociales et économiques qui transformeront non seulement la France, mais le monde entier. » Ce serait absurde, n'est-ce pas ? Personne n'y croirait. Mais Siméon et Anne ont compris la réalité, la vérité. Jésus est le Messie, le bébé est le Messie. Siméon dit que Jésus est le salut. Il sauvera non seulement le peuple juif, mais aussi le reste du monde. Gloire d'Israël, ton peuple, lumière pour éclairer les nations. Et voilà pourquoi Anne, au verset 38, une veuve pendant toute sa vie, disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parler de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Voilà pourquoi Siméon pouvait dire « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. » La sérénité dans un monde mort, c'est ça, n'est-ce pas? C'est souhaitable et c'est désormais possible. En Jésus, le bébé devenu homme, on peut avoir la sérénité dans un monde mort. L'attente est terminée. Et même aujourd'hui, je pense que Jésus est un personnage inattendu, controversé, voire faible. Il n'était certainement pas le roi auquel les gens s'attendaient à l'époque de Siméon. 30 ans après, le bébé, un homme maintenant, a été crucifié sur une croix romaine. Et au lieu de vaincre la mort, il a été vaincu par la mort. Donc, que pensez-vous de Jésus-Christ? Était-il le sauveur du monde? Ou était-il juste un bébé juif, juste une autre voix sur la scène de l'histoire mondiale, ici aujourd'hui, parti demain? Notre monde cherche partout des solutions au problème de la mort et de ses effets, n'est-ce pas? La meilleure technologie, les meilleurs soins médicaux, un nouveau remède contre le cancer, un nouveau régime végétarien. Mais ça ne marche jamais, n'est-ce pas? Ça ne marche jamais. Mais Luc, par contre, le médecin qui a écrit cet évangile, veut nous convaincre que Jésus-Christ est la solution au problème de la mort. Comme Siméon a dit, il est le salut. Jésus-Christ est mort à la croix, non pas parce qu'il n'a pas réussi à vaincre la mort, mais parce qu'en mourant, il est mort pour nous. Il meurt votre mort et la mienne. Chacun de nous mérite la mort pour la manière dont nous avons traité Dieu. Mais dans son amour, Jésus nous sauve de la mort que nous méritons pour une nouvelle vie que nous ne méritons pas. C'est extraordinaire et sa résurrection prouve qu'il est le roi promis de Dieu, le sauveur du monde. Donc oui, Jésus est un personnage surprenant. Il est controversé aussi. Siméon le savait quand il a dit le verset 34. Mais il n'est pas le sauveur, auquel on s'attend. Mais ne l'écartez pas. En Jésus, l'attente est terminée. Seulement en Jésus-Christ, on peut avoir la sérénité dans un monde mort. Ma grand-mère était une dame qui a joui de la sérénité face à la mort. Alors qu'elle s'allongeait sur son lit d'hôpital, à peine capable de bouger, elle savait que l'attente était presque terminée pour elle. Pendant 65 ans de sa vie, elle a fait confiance en Dieu pour le pardon de ses péchés et pour l'amener à travers la mort sain et sauf. Jésus était déjà venu il y a 2000 ans, elle savait déjà cela. Elle savait aussi que la prochaine fois qu'elle verrait Jésus, ou à son retour, ou après sa mort, l'attente serait bel et bien terminée. Et donc à 6h30 du matin, le jeudi 26 avril 2018, ma grand-mère Valérie, âgée 88 ans, a arrêté de respirer. Mais elle n'a pas arrêté de vivre. En fait, sa vraie vie ne faisait que commencer. C'est magnifique, grâce à Jésus-Christ. Et je pense qu'elle serait d'accord avec Siméon et avec Anne que oui, la vie, c'est la mort. Et oui, la vie, c'est attendre. Mais elle voudrait nous dire, la jeune génération, qu'en Jésus-Christ, l'attente est terminée. Oui, nous attendons toujours, mais à son retour ou au moment où nous mourrons nous-mêmes, l'attente sera bel et bien terminée. Donc voilà, nous allons passer quelques minutes maintenant à discuter de ces choses ensemble. N'hésitez pas à partager vos propres expériences peut-être, partager vos propres idées et sentez-vous libre d'être en désaccord avec ce que j'ai dit et discuter entre vous de ces thèmes. Et puis Jonathan va venir nous parler de la suite. Merci.